Et on passe tout de suite à la culture. Bonsoir à toutes les deux, Léa et Sarah.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir à tous, des Statsni Novi Rock.
Si, ce qui, pas en italien, signifie bonne année.
Merci Léa pour la traduction, quelle interprète de génie. Pour bien commencer l'année, j'aimerais vous annoncer.
Ok.
Alors, petit souci
c'est
technique.
Un petit
avec
changement,
un
de,
changement
micro.
De micro. Intempestif, mais tout va bien, nous sommes parfaitement rodés, nous sommes en 2019 et Transistor a
et
10
tout
ans.
Va bien.
Et voilà, et donc je reprends. Pour bien commencer l'année, nous changerons de micro et j'aimerais surtout vous annoncer une excellente nouvelle. Depuis mardi, la bibliothèque municipale de la Part-Dieu vous propose de savourer le bonheur d'être bobo. Et oui, cette espèce en voie de non-extinction pratique ce que l'on appelle le goût ou le bon goût. Les bobos, à ne surtout pas confondre avec leur cousin éloigné bonobo, aiment les bons légumes bio et locaux de la MAP, le bon café moulu à la maison et torréfié sur place, le bon vieux pull de mamie ou de guérissol. Bref, vous l'entendez, chez le bobo, c'est comme chez le cochon, il n'y a que du bon. Et justement, en guise de bonne résolution, le département de musique de la BML a décidé de vous offrir de la bonne musique, ou du moins du bon son. Vous n'enverrez plus vos potes au perché à la Croix-Rousse, poutres apparentes et plantes carnivores en mezzanine, possesseurs d'une jolie collection de vinyles, car vous aussi, vous pourrez vous la péter et savourer des notes plus savoureuses sur une platine que sur YouTube. Et ce, sans avoir à dépenser une fortune. C'est pas cool ça ?
Sarah, je trouve ça sympa que la BML se mette à la mode vintage, mais comment fait-on si on veut s'y mettre et que l'on n'a pas de platine ?
Ah bah aucun souci. Votre merveilleuse BML a pensé à tout. Une dizaine de platines vinyles portables est à la disposition des malheureux qui n'ont reçu que des oranges et du pain sec à Noël. Ou qui n'ont pas pensé à commander une platine au lutin. Enfin, je crois qu'à ce jour, le nombre de vinyles empruntables s'élève à un petit millier. Mais si l'on calcule bien, vous n'aurez jamais le temps de tous les écouter en une année. Donc il y a la marge et il y en a pour tous les goûts.
Tout est bon dans le bon son.
Merci Léa pour cette merveilleuse phrase de conclusion. Léa, c'est bien beau la musique, mais ça ne profite pas aux sourds. As-tu autre chose à nous conseiller ?
Toujours, Sarah. Mais avant, une petite question. Si tu avais le choix entre m'écouter faire ma chronique et me donner la réplique et aller boire une bière en cafette, que ferais-tu ? Tu as 10 secondes pour répondre et sache que ton choix va orienter le reste de ce journal de la culture.
Je choisirais la bière sans hésiter.
Eh bien, heureusement pour moi, tu ne l'as pas vraiment et tu vas devoir m'écouter parler de séries, de choix, de réalité et de fiction.
Quelle torture !
Ça faisait plus d'un an qu'on l'attendait. La saison 5 de Black Mirror, série créée par Charlie Brooker et diffusée depuis 2016 sur Netflix, déployant un univers dystopique dans lequel, je résume à grands traits, sont interrogés les usages que nous faisons de ces nouvelles technologies qui prolifèrent. Eh bien, cette saison 5 n'est toujours pas sortie, mais le 28 décembre, c'est un film interactif qui a été diffusé, Bandersnatch. Peut-on imaginer meilleure mise en abîme des problématiques ayant parcouru les saisons précédentes ? Sans doute pas. Une question centrale dans ce film, celle des choix que nous pouvons faire véritablement dans notre rapport à ces technologies. Je m'explique. Lorsque l'on regarde un film, nous avons, il me semble, deux types de choix à faire. Le premier, incroyablement difficile, est le choix du film. Pour ceux qui franchissent ce premier écueil avec succès et regardent effectivement le film choisi, s'ajoutent alors des choix interprétatifs. Pour schématiser, la fin d'Inception est-elle porteuse d'espoir ou pas ? Ces choix interprétatifs orientent bien sûr notre vision du film, mais ils n'influencent pas le déroulement de son intrigue. Or, avec ce film interactif, c'est ici à nous de tirer les fils de la narration. Nous sommes acteurs aussi, et pas seulement spectateurs, puisque ce sont nos choix qui détermineront l'avancée du film. Choix cornéliens entre Frosties et autres céréales notamment, mais aussi parfois encore plus lourds de conséquences.
Je ne savais pas que c'était possible.
Et je l'ignorais aussi jusqu'à une période très récente. Ça te rappelle peut-être le principe des livres dont on est le héros, ou celui des jeux vidéo. Mais transposé dans l'univers de Black Mirror, il prend une autre dimension, grâce à un jeu de miroir justement assez vertigineux. Car ici, L'interactivité concerne non seulement la forme, mais aussi le fond de l'épisode. Et c'est alors, cette fois, non plus au miroir, mais au spectateur de réfléchir, projeté à Londres en 1984, dans une atmosphère inquiétante. Un jeune programmateur, assez mal dans sa peau, tente d'adapter sous la forme d'un jeu vidéo interactif Bandersnatch, un roman de fantasy à choix multiples dont l'auteur a sombré dans une folie meurtrière qui l'a conduit, notamment, à décapiter sa femme. Il se lance corps et âme dans cette entreprise et là, tout commence à déraper car le réel commence à se distordre. À mesure que l'on fait des mauvais choix qui nous font revenir à un point antérieur de l'intrigue, le personnage évoque des sensations de déjà-vu, a l'impression de n'être pas vraiment maître de ses choix, ni de lui-même. À peu près au même moment, celui où on revit la même scène pour la troisième fois à cause d'un choix malheureux, on se met aussi à douter en tant que spectateur. Ai-je vraiment le choix ? Est-ce vraiment moi qui décide du déroulement de l'intrigue ? Ou ne fais-je que suivre un schéma prédéterminé dans une narration qui est par avance complètement verrouillée ? Et là, on regarde l'heure. On se rend compte que ça fait une heure et demie que l'on est devant son écran, que l'on n'a pas beaucoup fait avancer l'intrigue, que si ça continue, on va y passer la nuit et on élargit la réflexion. Passant de la question « Est-ce moi qui contrôle l'épisode ou l'épisode qui me contrôle ?» à « Est-ce moi qui profite de mon abonnement Netflix ou cette plateforme qui envahit ma vie ?» Puis on continue quand même l'épisode parce que bon, il y a du suspense.
Je reconnais bien là ta force de caractère, Léa.
Et pour ceux qui n'aiment ni la musique ni les séries, n'aurais-tu pas une bonne nouvelle à leur annoncer à eux aussi, quelque chose qui puisse régaler leurs pupilles ?
Je ne sais pas si les pupilles des sourds se régaleront autant que nos oreilles et nos gambettes à la Dark 80s Party du Sonic ce samedi, mais j'ai cru voir une invitation à un vernissage passer dans nos mails de l'ENS. Je me suis dit, chouette, pas une opération de grutage. Non que j'ai une dent contre les grues, surtout lorsqu'elles portent des barésilles, mais un vernissage est synonyme de bonne société et de dîner économisé. Un verre gratuit, Léa, ça ne se refuse pas.
C'est pas faux. Mais Sarah, où est ce vernissage et que présente-t-il ?
Il paraît que physique et photo se marient bien. Dans l'esprit de Maxime Cluzel, du moins, cette rencontre offre un nouvel aperçu de la grande ville. L'œil sensible de ce physicien déambule de quartier en quartier et capture en gros plan des détails de la vie quotidienne ou utilise la lumière pour dessiner les formes inaperçues habituellement de la ville. Sensitized, c'est donc l'exposition hommage à cet ancien élève de l'école qui fut chercheur au CNRS en physique théorique, by the way. Justement, ce sont ses recherches en physique qui l'ont mené à New York. The Big Apple, si elle a terrifié les petits James, aura émerveillé Cluzel. Et après une formation à The School of International Center of Photography, le voilà doté d'un nouvel objectif, qui promet.
Oui, sur le site de l'école, où vous trouverez toutes ces informations, la photo sélectionnée est plutôt jolie. Un visage bien découpé dans le rétroviseur, une route qui fuit dans le flou. Ça rappelle pas mal de photos, mais la simplicité de ce cliché pourrait toucher les plus sceptiques parmi vous.
Au pire, ça pourrait vous évoquer les vacances, hélas, fini pour le moment. Prendre le volant, s'échapper de cet hiver infernal, de ces cours dont on ne veut plus entendre parler alors même qu'ils n'ont pas commencé. Enfin, le vernissage aura lieu vendredi 18 janvier à 18h30 dans la galerie Artemisia.
Des vernissages, c'est bien, mais il y a aussi des finissages. Sarah, tu as un mot à nous dire là-dessus, non ?
Tout à fait, Léa, merci de me le rappeler. Un autre verre gratuit en perspective à l'Institut Goethe cette fois-ci. Que s'y passe-t-il ? Eh bien, espérons que personne parmi nous ne rêve de folâtrer nu comme un petit indien dans la prairie, car c'est encore dans un univers urbain que Claude Haussmann nous invite à la flânerie. Coincé entre deux chaises, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, cet artiste interroge écriture et dessin, signes et espaces. Destination, c'est donc destination ailleurs. Un ailleurs pas si loin, en fait, puisqu'il s'agit aussi de regarder l'espace quotidien sous une autre focale. De quoi rendre le familier étranger ? Bon, on en a déjà bien soupé, me direz-vous. Mais ce que propose Claude Haussmann, artiste contemporain, est davantage une exploration nouvelle qu'une redite. Il pratique essentiellement le dessin sans en épuiser l'intérêt ni la richesse. Les encres vous noient sous l'immensité de leur tracé ou bien se dissimulent avec humilité sur leur support de polyester. Polyester et quelques papiers se mêlent à des reliefs de pierre. Livres, estampes, béton, photos, tous ces éléments se combinent et donnent à voir un autre regard sur la ville et sur les liens entre dessin et langage.
L'exposition est gratuite, elle se tiendra jusqu'au 14 février, date à laquelle, bien sûr, vous écouterez le direct de Transistor, et son finissage aura lieu à ce moment-là, à 19h.
Oui, et ce sera en présence de l'artiste, suivi d'une présentation de la performance Ein Hungerkünstler avec Stéphane Lemercier, d'après un texte de Kafka. Décidément, entre le procès de Lupa à Mulhouse et le Kafkaf des gorges enrouées, on en entend du Kafka.
Oh,
À propos, tant qu'on parle de tchèques, j'aimerais vous rappeler que jeudi prochain, le Ciné-Club des Salopettes organise la projection des Petites Marguerites. Avec ce film aux allures psychédéliques et dédié à ceux qui s'indignent des salades piétinées, si ma mémoire est bonne, la réalisatrice Viera Khetilova signe un joli pied de nez à l'oppression soviétique. Un petit bijou à ne pas manquer, alors rendez-vous jeudi 17 janvier à 20h45 à l'Aquarium Ciné-Café.
Et pour continuer dans la veine cinématographique, je signale que le festival Télérama au Zola à Villeurbanne commence la veille, mercredi 16 janvier. Une belle occasion de voir les longs métrages de l'année passée pour ceux qui les auront ratés. Au programme, Phantom Threads, Burning, Amanda, Plaire, Aimer et Courir Vite, Une Affaire de Famille, Leto, En Liberté, Nos Batailles, La Mort de Staline, Girl, L'Île aux Chiens, Une Pluie Sans Fin, Cold War, The Rider et, en avant-première, Nos Vies Formidables.
Merci Léa, pas mal de films en perspective, mais pour les Parisiens ou les détenteurs d'une carte TGV Max, si ce programme ne vous dit rien, faufilez-vous au ciné-club de l'ENS d'Ulm. Et pourquoi ? Tout simplement parce que mardi 15 janvier à 20h30, pas très précise, débutera la projection d'Azur et Asmar en présence de Michel Oslo.
Oh, alors aucune excuse, envahissez les salles noires des Ulmites et ne dites pas « je peux pas, j'ai poney », s'il vous plaît.
Mais moi Léa, je peux pas, j'ai yoga.
Il giornale radiofonico de l'amplification.
Sur Transistor.
Merci beaucoup Léa et Sarah, tout un tas de films qui ont par ailleurs été abondamment critiqués sur une autre émission de notre chaîne et on vous invite bien sûr à aller réécouter tout ça pour faire une petite idée. Mais tout de suite on passe du cinéma à la musique, on vous retrouve Maë et Benoît pour la musicienne.